France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un vote historique annoncé cet après-midi à Versailles. Députés et sénateurs réunis pour faire de la France le premier pays au monde à inscrire explicitement l'IVG dans la Constitution. Mesure largement soutenue dans l'opinion.
Il n'y a pas du tout de débat, il faut l'inscrire à la Constitution. Parce qu'on n'est pas du tout sûr de l'avenir.
Les femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, qui par accident se retrouvent enceintes, nous leur devons.
Nos grands-mères, nos arrière-grands-parents, ce qu'ils ont vécu, ça ne devait pas toujours être facile et je suis pour quoi.
Mais nous verrons que malgré ce vote annoncé, des centres IVG sont toujours pris pour cible en France. La salle du congrès de Versailles, ce sera également à 13h50. La chronique, c'est la France de notre historien Thomas Negaroff. À suivre encore, la situation en Haïti. Bonjour Omar Waman.
Bonjour Jérôme.
Deux prisons prises d'assaut ce week-end.
Oui, Port-au-Prince, à nouveau plongé dans le chaos, théâtre d'affrontements sanglants entre la police et les groupes armés. Une situation devenue ces derniers jours totalement hors de contrôle.
Et vos explications à suivre. Nous verrons que le ministre français de la transition écologique compte sur la loi pour nous dissuader d'acheter de la mode à bas prix, et que la navigatrice Clarisse Kremer, accusée de tricherie sur le dernier Vendée Globe, vient d'être totalement blanchie. À 13h30, elles ont moins de 13 ans et elles mettent déjà de l'anti-cerne. Nous parlons de ces très jeunes filles qui écument les magasins de cosmétiques, phénomène venu des États-Unis qui gagne la France. Vos questions et vos témoignages dès maintenant, 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton dans le département des Landes avec le skateur Vincent Milou. Il prépare les Jeux Olympiques grâce à son frère.
Il est charpentier et il a commencé à me construire des modules dans notre jardin. 20 ans plus tard, on s'est associés et il m'a construit un skatepark avec son entreprise.
Préparation atypique donc pour les JO, vous le verrez. Puis dans une vingtaine de minutes, les Jeux avant les Jeux. Notre rendez-vous avec Nathalie Yanetta, un nouveau système de vidéosurveillance pour ces Jeux. Et puis la musique, juste avant 14h, une star du violon Renaud Capuçon et une chanson mythique de Barbara grâce à Frédéric Pommier. Et les 20 ans de la disparition de Claude Nougaro, dont les mots nous font voyager du Poitou aux Corbières. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
24 modifications en près de 66 ans d'histoire et 19 depuis 1992. Le rythme des modifications de notre Constitution s'accélère, mais peu de voix pour le regretter aujourd'hui. Les 925 parlementaires du pays seront rassemblés cet après-midi à Versailles pour voter l'inscription dans la Constitution de la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. C'est la formule retenue. Elle sera introduite à l'article 34, si 3/5 des élus la votent. Bonjour Claire Flochel.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Versailles, vous allez nous expliquer le déroulé de ce scrutin dont l'issue fait peu de doute. On va vous retrouver dans un instant. D'abord allons à Rouen, parce qu'on peut avoir le sentiment que ce soutien à l'IVG dans le pays est unanime ou presque. Il n'en est rien. Bonjour Océane Zitouni.
Bonjour.
L'Institut pour l'IVG de la ville de Rouen est régulièrement pris pour cible.
Oui, encore aujourd'hui, deux faux rendez-vous ont été pris, des actes malveillants réguliers depuis l'ouverture il y a 3 ans. Marianne Lenné, docteur et fondatrice de cet institut médical, raconte.
De faux rendez-vous, mais qui nous bloquaient 3 quarts d'heure. Ce sont des gens qui changeaient de nom, de numéro de téléphone pour bloquer des rendez-vous.
Ajoutez à cela le site internet du centre piraté depuis une quinzaine de jours.
Notre site, c'était ivg-rouen.fr. Maintenant, lorsque les patientes trouvent ce site et vont dessus, c'est de la pornographie.
Le docteur Lenné va déposer plainte demain. Ces attaques ne sont pas aléatoires, elles sont rythmées par l'actualité. Exemple avec la visite d'Elisabeth Borne en septembre dernier. La première ministre est accueillie par des tags. Il était écrit sur la façade.
Une phrase atroce, Borne, ta mère aurait dû avorter.
Et malgré ce harcèlement, Marianne Lenné reste positive.
Rien ne prend le pas sur cette très belle journée, ce moment historique pour le progrès. Encore merci Madame Veil d'en être là maintenant, c'est fantastique.
En 2023, l'Institut médical Simone Veil de Rouen a pu réaliser 483 interruptions de grossesse, soit une augmentation de 43% par rapport à 2022.
Merci Océane Zitouni. Les opposants à l'IVG ont d'ailleurs annoncé une mobilisation à Versailles cet après-midi. Les partisans de la réforme ont rendez-vous au Trocadéro à Paris où le vote sera retransmis sur écran géant. Claire Flochel, je reviens vers vous en direct de Versailles pour parler de ce vote. C'est la première fois depuis 2008 que la Constitution est modifiée, Claire, et cela demande une logistique toute particulière.
Oui, logistique particulière, car jour particulier et lieu particulier, les 577 députés et 348 sénateurs sont attendus avant l'ouverture de la séance à 15h30 ici dans l'imposante salle du Congrès, nichée dans l'aile midi du château de Versailles. Cet hémicycle tout de rouge et d'or ressemble à un immense théâtre. Il peut accueillir environ 1500 personnes. Seuls quelques journalistes sont déjà présents. Les parlementaires doivent arriver de façon groupée en début d'après-midi. Une vingtaine de cars est déployée pour les transporter. Députés et sénateurs s'installeront donc dans le grand hémicycle, pas par groupe, mais par ordre alphabétique. Les étiquettes avec leurs noms sont déjà scotchées sur les pupitres. C'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui ouvrira la séance par une prise de parole sur le droit des femmes. Puis le Premier ministre Gabriel Attal prononcera un discours pour représenter l'exécutif. Les textes interdisent en effet au président de la République d'être présent lors d'une révision constitutionnelle. Chaque groupe politique, ils sont 18 en tout, aura ensuite 5 minutes pour exprimer sa position avant le vote, dont l'issue ne fait a priori guère de doute. La révision déjà adoptée à une large majorité par l'Assemblée nationale a également reçu le soutien de 267 sénateurs. Le résultat devrait être connu aux alentours de 18h30.
Et vous saurez tout de l'histoire de cette salle du Congrès tout à l'heure à 13h50 avec Thomas Negaroff. Merci Claire Flochel, avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. Alors il y aura donc cette liberté garantie dans la Constitution à l'issue de ce vote, mais il y a aussi, elle ne disparaît pas pour les médecins, la possibilité de refuser de pratiquer un acte médical. Ça s'appelle la clause de conscience et elle est garantie par la loi. Cela peut avoir un impact. En Italie, par exemple, plus de 70% des médecins sont opposés à l'IVG. Alors la Constitution modifiée va-t-elle s'imposer aux médecins? Le spécialiste de droit constitutionnel Jean-Philippe Desrosiers est catégorique.
Non, ce n'est pas le cas pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que la liberté de conscience est également garantie par la Constitution. C'est l'article 10 de la Déclaration de 1789. C'est sur cet article que s'appuie la possibilité de faire jouer cette clause de conscience pour les médecins qui ne voudraient pas pratiquer une interruption volontaire de grossesse. La deuxième raison, c'est que la révision constitutionnelle renvoie à la loi pour mettre en œuvre cette garantie. Il n'y a pas ce droit opposable qui permettrait, sur le simple fondement de la Constitution, de dire « vous devez pratiquer une interruption volontaire de grossesse ». Renvoyant ainsi à la loi, on peut à peu près tout imaginer, y compris la possibilité de faire jouer cette clause de conscience.
Le constitutionnaliste Jean-Philippe Desrosiers au téléphone de Marie Mollet. Toute étincelle à Gaza peut conduire à une conflagration beaucoup plus large. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme redit sa crainte ce matin d'un embrasement de la région. Près de 5 mois après les attentats du 7 octobre et le début de la guerre à Gaza, pour l'instant, ce n'est pas le cas, même si le conflit a gagné d'autres zones. Nous parlerons dans un instant de la mer Rouge, où un navire britannique a été coulé ce week-end. Avant cela, voyons où en sont les négociations pour une trêve. Elles se déroulent en ce moment au Caire, en Égypte. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Thibault, l'armée israélienne continue de bombarder Gaza, mais les négociations, elles, progressent.
Oui, c'est en tout cas ce que déclarent des journalistes de la télévision nationale égyptienne ce matin. Hier, c'était un responsable anonyme du Hamas qui affirmait à l'agence France Presse que la trêve pourrait être signée dans les 24 à 48 heures si Israël acceptait les demandes de l'organisation islamique. Ce que l'on sait, Jérôme, c'est qu'une proposition des médiateurs est sur la table, qu'elle prévoit 6 semaines de pause dans les combats et la libération de 42 otages contre des Palestiniens emprisonnés. Que l'horloge tourne, les médiateurs se sont donnés jusqu'au Ramadan, les 10 ou 11 mars pour parvenir à une trêve et qu'il y a encore des points de discorde. Le Hamas veut un cessez-le-feu définitif, le retour de la population dans le nord de Gaza et 5 à 6 fois plus de livraisons d'aide humanitaire. Du côté israélien, c'est plus flou. L'État hébreu n'a pas envoyé de délégation au Caire et évidemment, l'absence de représentants ralentit des négociations déjà très chaotiques depuis plusieurs semaines.
Il faut dire, Thibault, que les États-Unis semblent bien décidés à obtenir un cessez-le-feu.
Oui, plus que jamais en tout cas. La vice-présidente américaine Kamala Harris, vous l'avez peut-être entendu ce matin sur France Inter, demande un cessez-le-feu immédiat. Elle doit recevoir tout à l'heure le principal opposant de Benjamin Netanyahou, l'ancien chef d'état-major Benny Gantz, bien plus ouvert à la négociation que le Premier ministre. Et puis il y a l'aide humanitaire américaine larguée par avion samedi dernier, moins de 40 000 repas. C'est dérisoire, mais symboliquement, c'est une manière de court-circuiter le gouvernement israélien. Les relations entre les États-Unis et l'État hébreu ne sont pas au beau fixe et il va falloir voir si cette pression américaine accrue peut permettre de faire avancer les pourparlers.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Alors ce conflit a des conséquences, on le sait, sur le trafic maritime puisque depuis plusieurs mois, les rebelles houthis implantés au Yémen et qui soutiennent le Hamas prennent pour cible les navires qui empruntent la mer Rouge, voie de passage entre l'Asie et l'Europe. Samedi, l'un de ces bateaux, le Rubimar, qui transportait 21 000 tonnes d'engrais, a d'ailleurs sombré après une attaque. Et Julie Pietri, cela pourrait avoir des conséquences, notamment pour l'environnement.
L'inquiétude, elle est liée effectivement à cette cargaison. Plus de 20 000 tonnes d'engrais, azote, phosphate, soufre, engrais assez communs, explique Christophe Logette, le directeur du CEDRE, Centre de recherche sur la pollution des eaux, qui a été sollicité par les Nations Unies pour travailler sur ce naufrage.
C'est un produit qui, s'il est déversé dans le milieu marin, va avoir un effet sur la flore et le développement d'algues. Avec des récifs coralliens qui sont remarquables dans le sud de la mer Rouge, mais dans tout cet espace maritime, et qui peut endommager cet écosystème.
Mais l'effet écologique sera important, dit-il, seulement si la cargaison est relarguée d'un seul coup. Or, pour l'instant, la coque semble tenir. Le bateau, en touchant le fond, ne s'est pas fendu en deux.
La situation la plus probable, c'est que l'engrais se dissolve. Alors, ça se dissout assez lentement comme engrais. Hein, c'est fait pour tenir sur les champs, si je puis dire. Et on va avoir une diffusion qui va être lente, donc une dissolution qui va être importante. Il n'y aura pas de concentration de cet engrais à ce stade.
Christophe Logette, pour le moment, s'inquiète plus pour les hydrocarbures qui ont déjà été relâchés. Une longue traînée noire a été observée près du bateau avant sa disparition. Et à bord, il y a 1000 tonnes de fioul lourd. Des analyses sont en cours.
En Haïti, c'était peut-être l'espoir d'un retour à un semblant d'ordre dans un pays confronté au règne des gangs depuis des années. Vendredi, le Premier ministre haïtien Ariel Henry signait un accord avec le Kenya pour accueillir des policiers kenyans dans son pays. Le tout dans le cadre d'une mission internationale soutenue par les Nations Unies. Et bien manifestement, cet accord n'est pas du goût de tout le monde en Haïti. Omar Waman, vous êtes avec nous, vous connaissez très bien ce pays, vous vous y êtes déjà rendu, vous connaissez aussi les acteurs de ce conflit que vous avez déjà interrogé. Le gouvernement haïtien vient de décréter l'état d'urgence car hier, un centre pénitentiaire a été attaqué par des gangs.
Oui, ce sont deux prisons de la capitale Port-au-Prince qui ont été attaquées dans la nuit de samedi à dimanche par des groupes armés, ce qui a permis l'évasion de milliers de détenus. 3800 prisonniers étaient présents avant l'assaut. Il n'en restait plus qu'une centaine le lendemain. Une attaque qui a fait une dizaine de morts. Depuis jeudi dernier, plusieurs gangs se sont unis pour coordonner leurs attaques qui ont visé des lieux stratégiques comme l'aéroport international Toussaint Louverture qui a dû fermer temporairement ou des commissariats emblèmes du pouvoir. Au moins 4 policiers sont morts dans les combats et près de 15 000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile ces derniers jours.
Et cette attaque serait donc liée à la visite du Premier ministre haïtien au Kenya.
Oui, effectivement, la situation s'est brusquement dégradée jeudi après le départ d'Ariel Henry pour le Kenya où il a signé, vous l'avez dit, un accord qui prévoit le déploiement d'une mission internationale en Haïti afin d'épauler la police locale. Et c'est durant son absence que plusieurs gangs ont décidé de faire alliance pour le chasser du pouvoir car Ariel Henry est devenu l'homme fort d'Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Il est contesté par une majorité d'Haïtiens et surtout, il s'était engagé à quitter ses fonctions au début du mois de février dernier. Ses opposants le soupçonnent de vouloir se maintenir à son poste et d'instrumentaliser le chaos qui règne dans la capitale pour prolonger son mandat à la tête du pays.
Merci Omar Waman.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
On trouvait de tout dans ce supermarché virtuel, montres de luxe, documents d'identité et même des informations tirées de fichiers de police, le tout en vente sur la messagerie cryptée Telegram. Le procès de l'affaire dite de la Genèverie, du nom de ce groupe Telegram, s'ouvre aujourd'hui, dans quelques minutes, au tribunal judiciaire de Paris. 8 personnes sont jugées pour avoir contribué à ce trafic, dont 2 policiers, un homme et une femme. On va y revenir. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
D'abord, intéressons-nous à l'homme qui est soupçonné d'être à la tête de ce trafic.
Il a la vingtaine, comme la plupart des protagonistes de ce dossier. Il ouvre son groupe Telegram en 2019, la Genèverie, référence à Genève, la Suisse, son horlogerie, car le jeune homme y vend d'abord des montres de luxe contrefaites imitées à la perfection par un Français établi en Thaïlande et millionnaire. La Genèverie n'est que l'un des 39 revendeurs en France. Les enquêteurs estiment le préjudice subi par les marques de luxe à près de 355 millions d'euros. Sur cette messagerie, vous le disiez, on trouve aussi des faux papiers bluffants, prêts en 48 heures, fabriqués par un dénommé Volris, petit génie de l'informatique que les enquêteurs traquaient depuis des mois.
Ça, c'est du classique, si je puis dire. Mais il y a aussi un service plus inquiétant.
Oui, la consultation de fichiers de police, personnes recherchées, antécédents judiciaires, immatriculation de véhicules, 2 policiers contractuels comparaissent, dont une femme accusée d'être allée plus de 330 fois chercher des renseignements sur commande, jusqu'à 15 demandes par jour, monnayées 50 euros pièce. Aux enquêteurs, elle se décrit comme acheteuse compulsive, un crédit à la consommation de 40 000 euros à rembourser. C'est ce qu'on appelle de la corruption de basse intensité qui touche les agents en bout de chaîne, et si elle reste marginale, elle est en hausse ces dernières années.
Delphine Evenou pour ses explications. Ce drame est tombé dans l'oubli collectif, dénonce l'un des avocats des victimes. Le procès du déraillement d'un TGV d'essai en Alsace le 14 novembre 2015 s'ouvre aujourd'hui à Paris. Il avait provoqué la mort de 11 personnes. L'accident s'était produit au lendemain des attentats djihadistes de Paris et de Saint-Denis, d'où le sentiment des victimes d'avoir été effacées. Une vitesse excessive et un freinage trop tardif serait à l'origine du déraillement, selon les experts. Sur le banc des prévenus à partir d'aujourd'hui, la SNCF, 2 de ses filiales et 3 cadres de ses entreprises chargées de conduire le train ce jour-là. L'expulsion de l'imam de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, validée par le tribunal administratif ce matin. Majoub Majoubi avait été expulsé vers la Tunisie sur décision du ministre de l'Intérieur. C'était il y a 2 semaines. En cause, selon la justice, des propos contre les juifs, d'autres plaidant la soumission de la femme et des propos tenus contre le drapeau français. Nous vous avons parlé de ces conflits sociaux ces derniers mois sur Inter. Des salariés d'Emmaüs dans le Nord, des saisonniers dans les vignes de Champagne ou encore des employés d'Amazon en Seine-Maritime. Un point commun, ils sont tous sans papier, 620 travailleurs au total. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Le syndicat CGT dit avoir obtenu du ministère de l'Intérieur l'ouverture d'un processus de régularisation.
Une véritable victoire pour ces travailleurs en grève depuis au moins le 17 octobre dernier, 4 mois sans salaire, pour obtenir finalement une lettre de cadrage du ministre de l'Intérieur envoyée prochainement aux préfectures. Cela doit permettre de rappeler les règles et fixer les mêmes critères pour tous, se félicite Gérard Rey, secrétaire fédéral CGT en charge des travailleurs migrants.
Il y a la question de la présence sur le territoire français et la preuve que ces salariés étaient vraiment travailleurs et que donc ils puissent justifier d'un certain nombre d'heures dans l'entreprise par laquelle ils étaient embauchés, à savoir que 80% de ces salariés, entre 70 et 80%, sont des intérimaires.
Des intérimaires qui peinent souvent à obtenir des certificats de leurs employeurs. Le débat sur la loi immigration ces derniers mois a aussi compliqué ce combat, défend Gérard Rey.
Les dossiers avaient commencé à être déposés depuis fin janvier et les préfectures avaient besoin simplement d'un cadrage qui puisse permettre d'avoir une analyse homogène de l'ensemble des situations parce que sinon effectivement en France chaque préfecture peut regarder différemment certains dossiers.
La prochaine étape, c'est la remise de récépissés à ces salariés dans l'attente de leur titre de séjour. Le ministère de l'Intérieur précise que ce n'est pas un processus collectif. Chaque salarié doit déposer un dossier individuel. Confiant, certains ont déjà repris le travail.
Explication signée Faustine Calmel. Plusieurs centaines de chauffeurs de taxi mobilisés depuis ce matin autour des grandes villes. 150 à Nîmes, plus de 200 à Rennes, 150 à Toulouse, à Paris. Les cortèges convergent vers la place des Invalides. 2000 taxis sont attendus. Ils dénoncent ces taxis une nouvelle fois la convention avec la caisse primaire d'assurance maladie, convention qui va bientôt entrer en vigueur. Selon eux, les tarifs proposés proposées ne couvrent pas les charges. Et puis il y a une autre revendication, une nouvelle obligation. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
De regrouper les patients lors des transports médicaux.
Alors c'est déjà une réalité puisqu'aujourd'hui environ 15% des trajets pour raisons médicales sont partagés. Mais l'assurance maladie veut aller plus loin car ses prises en charge coûtent très cher, plus de 5 milliards d'euros par an. L'idée est de réduire la facture d'environ 100 millions d'euros par an jusqu'en 2027. Alors comment ? Eh bien en incitant fortement les patients à accepter de partager un taxi si leur état de santé le permet, précise le texte, sous peine d'avoir à avancer les frais et de n'être remboursé que sur la base du transport partagé. Une mauvaise nouvelle pour les patients et pour les chauffeurs de taxi, car cela va de fait diminuer le nombre de courses. Or, en zone rurale, les déplacements médicaux représentent parfois plus de la moitié des revenus des chauffeurs. La mesure se répercute également sur la tarification, assure la Fédération nationale des taxis, qui dénonce un retour aux tarifs en vigueur en 2014. Les chauffeurs, qui mettent également en avant le risque sanitaire de transporter deux malades potentiels, ont le sentiment que face à l'augmentation des dépenses de santé, eh bien l'assurance maladie cherche à faire des économies sur leur dos et ils réclament d'urgence une table ronde avec le Premier ministre et les ministres des Transports, de la Santé et de l'Économie.
Agnès Soubiran, la loi peut-elle freiner l'appétit des consommateurs pour la mode à très bas prix, ce qu'on appelle la fast fashion, ces plateformes en ligne asiatiques qui commercialisent jusqu'à plus de 5000 nouvelles références par jour. En tout cas, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, veut leur mettre des bâtons dans les roues. Il réunissait ce matin les acteurs de la mode durable et des ONG environnementales. Avec cette annonce, il va soutenir la proposition de loi déjà déposée contre ce phénomène avec deux mesures, Rémi Brancato, interdiction de la pub pour ces enseignes et un malus écologique.
Christophe Béchu assume de faire des entreprises de l'ultra fast fashion sa cible, elle qui inonde le marché français de vêtements à bas prix.
On est passé de 30 à 40, puis quasiment à 50 vêtements par personne et par an.
Le ministre de la Transition écologique veut donc un malus financier jusqu'à 50% du prix du produit et l'interdiction des pubs de ces enseignes.
Je peux pas regarder ça et me dire que la seule et unique chose qu'on a à faire, c'est attendre, on va interdire des pubs qui donnent envie d'acheter des produits qui sont tout sauf bons pour la planète, qui contribuent à tous les désastres devant nous.
Les députés voteront la semaine prochaine et Charlotte Soulary de l'association Zero Waste France, qui milite pour la réduction des déchets, espère que les plateformes chinoises, Shein ou Temu ne seront pas les seules visées.
Nous, on estime que la surproduction dans le secteur textile, c'est à partir de 5000 nouveaux modèles par an. Shein, c'est 7000 nouveaux modèles par jour. Il y a plein de marques de la fast fashion, du type H&M ou Zara, 500 nouveaux modèles par semaine. Est-ce qu'elles vont être pénalisées financièrement dans cette loi ? On ne le sait pas encore. Rien ne nous permet d'être rassurés sur le fait que c'est la fast fashion dans son ensemble qu'on souhaite toucher.
Christophe Béchu, lui, promet d'accélérer sur l'affichage environnemental, une sorte de Nutri-Score du vêtement avec information sur sa durabilité, son origine, avec un décret pour le mois d'avril.
Rémi Brancato, vous avez entendu dans ce reportage le nom de l'une de ces marques chinoises, Shein. Réaction de sa porte-parole en France, il y a quelques minutes, elle dénonce des mesures qui, je cite, « affectent le pouvoir d'achat des consommateurs français ». Fin de citation. Elle est désormais lavée de tout soupçon. La navigatrice Clarisse Kremer a été blanchie par le jury international du Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire et sans assistance. Elle était accusée d'avoir triché lors de la dernière édition en recevant des messages de son compagnon resté à quai. L'assistance au skipper normalement est interdite. Elle a été auditionnée avant-hier par le jury de la course et la voilà, ainsi que son compagnon, blanchie. Elle conserve donc sa 12e place dans l'épreuve. Ce qui nous amène à notre rendez-vous du lundi avec les Jeux Olympiques, les Jeux avant les Jeux, avec Nathalie Yanetta, directrice des sports de Radio France, qui nous rejoint. Nathalie, on parle aujourd'hui de ces tests qui se multiplient en ce moment, à commencer par celui d'hier soir à l'Accor Arena, à Paris-Bercy. Vous y étiez, était expérimenté les premières VSA. Qu'est-ce que c'est ?
VSA comme vidéo de surveillance algorithmique. Ce sont 6 caméras en tout qui ont été réparties sur les accès et les extérieurs des parvis de Bercy. Bercy, qui, on le rappelle, cet été, vont accueillir à la fois les épreuves de gym puis celles de basket. Mmh. Hier, ce sont donc les spectateurs d'un concert, celui de Depeche Mode, qui ont servi de cobaye, dont moi, vous l'avez dit. Alors pour le moment, il ne s'agissait que de réussir grandeur nature à paramétrer les caméras pour la lumière, pour les angles et pour les mouvements avant de faire travailler le fameux algorithme. Et ça, ça sera pour demain soir, toujours sur le même concert de Dépêche Mode. Un algorithme qui est chargé de détecter les mouvements de foule, les comportements suspects, les départs de feu, etc. Alors franchement, j'ai bien regardé. Ouais. Ces caméras, elles sautent pas aux yeux. Et pourtant, on nous a bien dit qu'elles allaient être non seulement signalées, mais accompagnées de conditions d'utilisation pour chacun d'entre nous, parce qu'un arrêté préfectoral, évidemment, vous l'imaginez, encadre strictement ce genre de pratique pour garantir les libertés individuelles en empêchant, par exemple, la reconnaissance faciale ou la collecte de données personnelles. C'est un sujet ultra sensible, Jérôme. Depuis la promulgation de la loi olympique, les associations sont vent debout. Il y aura d'autres tests sur ce type de caméra, sur les autres sites olympiques d'ici le début de la compétition, mais pour le moment, le ministère de l'Intérieur n'a pas encore son calendrier.
Et au-delà de ces caméras, on va vivre en fait au rythme de ces répétitions, de ces tests dans les semaines qui viennent.
Oui, entre livraison d'équipements et ce qu'on appelle les test events, les équipes du COJO, les fédés internationales et les services de l'État vont absolument tout essayer avant les jours J, parce qu'il y aura beaucoup de jours J. Exemple, le 22 mars, test flamme olympique. Où ça ? Dans l'Aube.
Et dans l'Aube.
Pourquoi l'Aube, me direz-vous ? Figurez-vous que ce département a été choisi en vertu des différentes caractéristiques géographiques qu'il propose, c'est-à-dire quoi ? Eh bien, il y a des vallées, mais aussi des grandes villes, des lacs, des plaines, des sites privés très exposés. Bref, en fait, c'est un petit tracé en miniature du parcours de la flamme qui, elle, en vrai, va se balader sur 12 000 km depuis Marseille le 8 mai jusqu'à Paris le 26 juillet.
Et puis il y aura aussi des tests sur les équipements sportifs et sur les célébrations à venir.
Oui, alors on va livrer et tester en grandeur nature de nombreuses infrastructures, de la piscine olympique à la Marina de Marseille, mais évidemment le plus important, parce que c'est inédit, c'est cette fameuse cérémonie d'ouverture qui doit être testée encore trois fois avant le jour J, sauf que là, du côté de Paris 2024, on est obligé de s'adapter. Le planning a été percuté, comme le pont de Sully, vous savez, ce pont reconstruit fin 19e par le baron Haussmann, qui a été heurté absolument par un bateau de plaisance. Alors, il doit être réparé. Et ce sont justement ces réparations qui ont décalé les répètes. Alors, pour le moment, les organisateurs espèrent toujours faire un test en mai, un autre en juin et le dernier début juillet, en priant qu'aucune de ces étapes ne soit annulée pour cause de travaux plus longs. Les Jeux, c'est des exploits, Jérôme, mais c'est pas des miracles.
On croise donc les doigts. Merci Nathalie Yanetta. Tous les lundis dans ce 13-14. C'est de quel côté la Seine ? On se souvient de ces mots dans la bouche de Claude Nougaro qui a chanté Paris. Mais surtout Toulouse, sa ville natale. Nougaro disparu il y a 20 ans, jour pour jour, le 4 mars 2004. Et Bénédicte Dupont, France Bleu Occitanie, s'est penché sur la géographie de Nougaro et notamment son attachement à la ville rose.
Qu'il est loin mon pays.
C'est un rapport ambivalent qu'entretient Nougaro avec sa ville natale, consacrée en 67 avec ce qui restera l'une de ses chansons les plus populaires. Et qu'il est loin mon pays, lui parti adolescent en pension à Sorez, en Provence, dans l'Allier. Jeune adulte dans les années 50, il rejoint ses parents à Paris et ne reviendra vivre à Toulouse que 35 ans après.
Le pygmée occitan a grimpé sur les cimes.
89, il écrit « Toulouse to win » depuis Los Angeles, ode à l'Amérique plus qu'à la ville rose. Suivra « C'est une Garonne » en 93, deuxième véritable hymne à ses racines.
Ma fabrique rôde, c'est une Garonne. Quand elle se fait chaude au bras du pont neuf.
En fait, Nougaro écrivait sur presque tous les endroits où il passait, New York, beaucoup, Paris, le théâtre de sa vie, l'île de Ré, La Réunion ou encore le Poitou et Cadaquès, un véritable atlas chantant auquel aura droit aussi sa maison de Pasiol, dans l'Aude.
On l'appelle le Vert Double, la rivière qui déroule ses méandres sur les pierres, la rivière des Hautes Corbières.
La voix chaude de Claude Nougaro pour nous accompagner jusqu'à 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, gros plan sur le phénomène des Sephora Kids, ces très jeunes filles qui achètent des crèmes, du maquillage, quitte à abîmer leur peau. On s'interroge aussi sur le rapport plus largement de nos ados et de nos pré-ados à leur image. J'attends vos questions, témoignages peut-être aussi. 01 45 24 7000 à 13h45. Notre feuilleton, nous suivons le skateur Vincent Milou qui prépare les Jeux Olympiques sur son propre autre skatepark. Ça se passe dans les Landes. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Thomas Snegaroff et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Thomas, vous nous parlez de Versailles, c'est la ville du jour.
Oui, on va dans l'aile du midi du château de Versailles. Mais pourquoi est-ce que c'est là que la République, au cœur du symbole de l'absolutisme, vient changer la Constitution? Je vous raconte ça tout à l'heure.
Pour l'inscription du droit à l'IVG Absolument. Dans la Constitution cet après-midi. Frédéric, avec un violoniste.
Renaud Capuçon, qui sera ce dimanche en concert à l'Olympia et qui nous parlera d'une chanson de Barbara, un classique de son répertoire, Ma plus belle histoire d'amour.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Articulé, je vous l'ai déjà dit sur scène, articulé.
Chantal, je veux bien vous donner la réplique, mais bon...
Taisez-vous, arrogant, écoutez-moi.
Oui, mais...
Chacun, découvrez le plus grand choix de pergola pour un confort maximal. Pergola bioclimatique. Toises ouvrant aux lames orientales. Et voilà.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne tout simplement sur Euromaster.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une accalmie aujourd'hui avant une nouvelle perturbation.
Oui, un temps beaucoup plus calme que ce week-end. On garde un ciel encombré tout de même, parfois humide, du nord-est au Lyonnais. Il reste des averses, parfois orageuses sur le sud de la Corse. Le soleil s'impose du nord de la Seine vers le bassin parisien, l'Auvergne, la Méditerranée avec Mistral et Tramontane. On a des éclaircies qui reviennent sur les Alpes, mais attention aux avalanches après les fortes chutes de neige. Soyez extrêmement prudents, surtout sur la Haute-Maurienne, le Queyras, le Mercantour. Savoie, Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes sont toujours en vigilance orange avalanche. Et puis en allant vers l'ouest, on a une nouvelle perturbation qui s'invite avec des nuages élevés de plus en plus épais, de la pluie sur la façade ouest jusqu'à l'ouest de la Normandie, du vent également. Je rappelle que la Charente-Maritime reste en vigilance orange pour les crues. Les températures, elles sont proches des moyennes de saison avec 9 à 12 degrés au nord, 11 à 13 au sud, jusqu'à 14 à 18 près des Pyrénées et de la Méditerranée. Demain, on va retrouver notre perturbation sur le flanc est et des averses ailleurs.
Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est un phénomène qui a fait son apparition aux États-Unis et qui gagne aujourd'hui de nombreux pays, dont la France. De très jeunes filles, âgées de moins de 13 ans, qui se rendent en magasin pour acheter des cosmétiques, crèmes, sérums anti-rides, masques pour resserrer les pores, stylos anti-cernes, gouttes auto-bronzantes, anti-pollution, etc., etc. Elles sont incitées dans ces achats par d'autres très jeunes filles, des influenceuses qui filment leurs conseils et les diffusent sur les réseaux sociaux. On les a baptisées les Sephora Kids, du nom de la célèbre enseigne de cosmétiques. Alors, cette tendance récente pose un certain nombre de questions, notamment pour la santé de ses enfants, mais elle interroge aussi plus globalement sur le recours de plus en plus fréquent des jeunes ados françaises, mais pas seulement, aux cosmétiques. Nous en parlons avec nos deux invités. Valérie Collin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice des affaires scientifiques et réglementaires à la FEBEA, c'est la Fédération des entreprises de beauté, c'est-à-dire le syndicat professionnel des fabricants. Vous représentez les fabricants de produits Exactement. Cosmétiques. Vous êtes également, je le précise, docteur en pharmacie. Avec nous également Marie Jourdan, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes dermatologue et vous êtes membre du comité d'experts du site Doctissimo. J'attends pour toutes les deux les questions des auditeurs d'Inter 01 45 24 7000. Vous passez également via l'application France Inter. Avant de vous donner la parole pour savoir exactement de quoi on parle, on va écouter ce petit échantillon de jeunes filles glanées sur les réseaux sociaux.
Les filles, je viens de tester la routine make-up de Amaya. Je suis choquée, j'ai obtenu un teint de Barbie.
Alors, je vais commencer par mettre une crème hydratante qui vient de chez Chanel.
Ensuite, tu prends un bronzer, donc une poudre marron, et tu viens légèrement bronzer ici.
Je commence par mettre une tonne, mais quand je vous dis une tonne de bronzer, j'ai jamais vu ça. On va faire exactement pareil. Ensuite, elle vient appliquer son anti-cerne, donc elle en met vraiment beaucoup. Appliquer comme ça en triangle, ici.
Ensuite, je viens appliquer un anti-cerne qui vient de chez Jean-Louis Alvarez.
Pour les lèvres, ma belle, tu vas au collège, ça va mettre du rouge à lèvres. Franchement, je te conseille de mettre soit un gloss transparent ou soit carrément un baume à lèvres. Par exemple, là, il y en a une de chez Action, je vais la mettre. Je te jure, il est trop trop bien.
Mais oh my god, les filles, je me sens comme une Barbie. C'est quoi ce teint? Le teint, même dans la vraie vie, c'est choquant. Genre. Et je suis vraiment choquée par contre.
Routine, make-up, j'ai relevé ces termes. Bronzer, anti-cerne. Valérie Collin, est-ce que vous avez déjà entendu ce discours?
De la part de jeunes, c'est ouais. effectivement des produits qui ne sont pas adaptés à cette population en temps normal. Alors, si vous le voulez bien, je peux peut-être commencer par expliquer ce que c'est qu'un produit cosmétique, comment il est mis sur le marché, comment on assure sa sécurité, qu'on est tous des éléments d'information qui sont assez essentiels. Donc, en fait, un produit cosmétique, c'est à la fois un produit de consommation et à la fois un produit de santé. Produit de consommation, ça veut dire que, en fait, on le met sur le marché avec des marges de sécurité telles qu'en fait, on peut le proposer à tout le monde, quitte à ce qu'il ne soit pas exactement utilisé dans ces conditions D'accord. d'utilisation. Et produits de santé, ça veut dire que ce sont des produits qui sont extrêmement surveillés et qui pour lesquels on va faire des évaluations de la sécurité qui sont très importantes. Avant la mise sur le marché, on regarde son utilisation attendue et après, on va suivre, en fait, on va alimenter ce dossier de sécurité. Alors, la petite fille qui utilise de temps en temps, qui va piquer le masque de sa mère pour l'utiliser, ça on est capable de le suivre.
Là, on n'est pas vrai. Là-dedans manifestement.
Voilà. Donc là on sort, en fait, vous voyez bien qu'il y a un problème d'exposition. Voilà. Donc là on est un peu en mode de vigilance puisqu'on n'est pas dans une utilisation adaptée du produit.
Vous avez vu ces vidéos ?
Oui, j'ai été regarder ça. Oui, c'est.
Comment vous avez réagi quand vous les avez vues ?
Alors il y a le marché aux États-Unis. On sait qu'aux États-Unis, les cosmétiques sont pas réglementés du tout de la même façon, donc on peut pas comparer exactement ce qui se passe
aux
sur les cosmétiques.
En France,
voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'en France, on voit. C'est vrai que c'est ces enfants qui cherchent à utiliser des produits qui sont pas du tout adaptés. On voit aussi que on a les conseillères de vente qui sont un petit peu désarmées face à cette situation. Et c'est vrai que nous, on se demande en fait pourquoi utiliser un anti-rides alors qu'on n'a pas de rides, pourquoi utiliser un anti-cernes alors qu'à cet âge-là, normalement, on doit dormir
exactement.
Pour ne pas avoir de cernes. Voilà.
Ça paraît évident, mais on a quand même ce discours qu'on vient d'entendre. Marie Jourdan, vous l'avez déjà entendu, vous qui êtes dermatologue, ce discours ?
Oui, alors de toute façon, la petite fille qui utilise les produits de sa mère, c'est pas nouveau. Hein. Tout le monde connaît ce phénomène. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que c'est le marché, en fait. C'est que ça intéresse les industriels et ils peuvent éventuellement ouvrir une part de marché à des tout jeunes enfants qui, finalement, n'ont pas de besoins particuliers. Mais là, c'est pas le cas. C'est simplement des enfants qui s'amusent à se maquiller, à utiliser des produits, sauf qu'avec les réseaux sociaux, avant, on faisait ça dans sa chambre, on s'amusait, puis on se faisait gronder le soir par sa maman parce qu'on avait mis le rouge à lèvres et l'anti-cerne, etc. Mais là, c'est complètement différent. On se filme, on transmet la vidéo et puis on devient un modèle pour d'autres petites filles.
Qu'est-ce qui vous frappe ? C'est la jeunesse de ces jeunes filles, je dis parfois moins de 13 ans, leur connaissance des produits, la rapidité de diffusion à l'échelle de la planète, du phénomène ?
Oui, moi je trouve que ça a toujours existé, parce que c'est un peu un phénomène de mode et puis aussi de génération quand on était petite.
On va vous retrouver dans quelques minutes, petit problème de liaison avec Marie Jourdan depuis son cabinet de dermato. On va en profiter pour prendre Jean-François en ligne qui nous appelle, je crois, du département de la Gironde. Bonjour Jean-François.
Oui, bonjour.
Et merci de vous être arrêté pour nous parler.
Oui, merci.
Allez-y.
Oui. Bon, alors ma question, c'est simplement, justement, ça corrobore tout à fait ce qui vient d'être dit, mais quel est le rôle des parents, quoi ? Comment les parents peuvent accepter que des enfants de 12 ans, voire 10 ans, puissent décider d'elles-mêmes de prendre des produits, de mettre des produits sur leur peau, et des produits qui ne sont pas adaptés ? Il existe des produits qui sont adaptés pour les enfants, pas pour des adultes. Ils ne peuvent pas mettre, franchement, c'est dangereux pour eux, de mettre des produits pour adultes, voilà.
Merci Jean-François pour cette question. Vous êtes interrogé aussi, Valérie Collin, par le rôle que peuvent jouer les parents dans l'utilisation de ces produits. On reviendra aussi sur ce que vient de dire Jean-François sur la dangerosité et produits pas adaptés. Mais d'abord sur le rôle des parents.
Évidemment, sachant qu'on comprend très très bien que c'est pas forcément évident. Ce que disait monsieur aussi qui est important, c'est que c'est vrai qu'il existe des produits adaptés. Que les parents ne le savent pas forcément ou et qu'il faut orienter. Alors après, c'est vrai que ces petites filles suivent des consignes. Enfin bon, on est sur le problème général de pourquoi un enfant va écouter ce qui se passe sur TikTok plutôt que les parents. Voilà, c'est un
et
grand sujet.
Et là, on
sujet.
Est au-delà des cosmétiques. C'est l'impact des réseaux sociaux
pas,
sur les plus jeunes.
Voilà, c'est un problème qui est global, qui est effectivement assez inquiétant sur la dangerosité. Alors il faut quand même aujourd'hui, enfin c'est qu'une petite fille prenne un masque, il y a la question de l'exposition qui va être fondamentale dans cette affaire-là.
C'est-à-dire l'exposition,
L'exposition au produit, c'est-à-dire que une petite fille qui va aller piquer le masque de sa mère une fois de temps en temps, ce que je vous disais, c'est des produits qui ont un niveau de sécurité tel que ça, on connaît, et c'est des choses qui sont suivies.
Mais une peau d'adulte peut être adaptée à un produit et pas une peau d'enfant.
C'est pour ça que nous, on considère, je vais laisser peut-être le dermatologue aller sur ce sujet-là, mais c'est pour ça que nous, aujourd'hui, autant on dit, ne paniquez pas si ça arrive, mais nous, on est en zone de vigilance et on suit, bien évidemment, très sérieusement ce phénomène à cause de ça.
Marie Jourdan, sur la dangerosité, on a eu un appel, le temps de vous retrouver, de Jean-François, qui nous disait, mais ces produits ne sont pas adaptés aux plus jeunes. Il parlait aussi du rôle des parents. Il parlait de dangerosité de ces produits.
Bien sûr, puisque là, il s'agit d'un mésusage. Au départ, ces produits, ils n'ont pas été mis sur le marché pour des tout jeunes enfants. Et bien sûr, la peau des enfants, elle est différente de la peau des adultes. Elle est plus fragile, elle est souvent plus sèche. Elle est propice aussi à faire des irritations, des allergies. Et les produits que les enfants vont utiliser, quand c'est des anti-âge, vous pensez bien qu'on n'en a pas besoin quand on est un enfant, et bien parfois, ils contiennent des acides, du rétinol. Et ça, c'est vraiment très, très irritant sur une peau d'enfant.
Donc, il y a des conséquences pour la santé.
Oui, c'est un mésusage, bien sûr.
On a une question de Carole Valérie Collin de Lille. Je vous la transmets. Je suis contente pour les filles qu'elles gagnent de l'argent. Je ne vois pas vraiment le mal. Ça coûte cher, ces produits aussi, il faut le dire. On peut s'interroger sur le fait qu'à 9 ou 10 ans, on ait les moyens d'acheter ce type de produit.
Alors après, c'est vrai qu'on a différentes gammes sur le produit. On a toute une gamme de produits. On peut les trouver à des produits qui sont très différents. Mais je rejoins ce que le dermatologue vient de dire. La question, c'est acheter un produit qui n'est pas adapté, avec un risque d'irritation, un risque d'apparition d'effets indésirables à l'utilisation de ce produit. Produit-là, plus que le prix qui, effectivement, oui, il peut poser question.
Vous représentez, Valérie Collin, le syndicat professionnel des fabricants de produits cosmétiques. On l'a entendu dans le petit résumé qu'on a fait au tout début, il y a quelques minutes, on entendait ces jeunes filles qui parlaient de ces produits, qui parlaient aussi des marques. Elles les connaissent, ces marques. Quel rôle jouent les marques dans ce phénomène?
Alors, c'est une bonne question, parce que c'est assez curieux. Parce que si on regarde, en fait, l'évolution des marques, de plus en plus, en fait, par rapport à moi, par exemple, j'ai plus de 50 ans quand j'étais jeune, on voit de plus en plus que les marques vont travailler avec des égéries qui ont plutôt vers 50-60 ans. On est de plus en plus sur cette tendance-là. On voit aussi qu'on a quand même des stars qui de plus en plus refusent les retouches sur les photos, et ça, c'est un but éducatif, et c'est pour aller contrer un peu tous les filtres qu'on voit qui floutent et qui donnent une mauvaise image de la réalité à toutes ces jeunes filles sur les réseaux sociaux.
Les stars ont des rides.
Oui.
Voilà, c'est ça.
Et donc, en fait, voilà. Non, mais c'est exactement ça.
Oui, on est dans ce mouvement-là, voilà, et en même temps.
Et en même temps. En fait, on voit bien que sur les réseaux sociaux, ce message ne passe pas suffisamment, puisqu'on a cette dérive sur les réseaux sociaux. Donc, c'est assez troublant.
Marie Jourdan, sur le rôle que jouent les marques, elles recherchent les marques, ces jeunes filles, on l'a entendu.
En fait, effectivement, moi, je trouve que bon, il y a ce côté jeu de grande, on imite un petit peu ce qu'on voit autour de nous, parfois même là-bas, hein, si c'est pas une influenceuse, on peut faire pareil. Sauf que sans le savoir, ces jeunes filles deviennent la proie d'industriels qui ont bien compris cette part de marché hyper importante. Ils peuvent d'ailleurs envoyer des colis pour qu'elles essayent d'autres produits, etc. C'est exactement le rôle des influenceuses. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le rôle des parents, dans le sens où jouer dans la salle de bain et faire comme une grande, c'est pas pareil que de se filmer et de publier sur les réseaux sociaux. Pour moi, elles peuvent devenir la proie des industriels, bien sûr.
Question d'Alexandre de Paris sur réaction possible sur ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'on a entendu dans un reportage en fin de semaine dernière sur France Inter des vendeuses un peu désemparées. Alexandre nous demande, peut-on légiférer et interdire l'entrée des jeunes dans les magasins de parfumerie, Valérie Collin?
Alors ça veut dire que pour la fête des mères, vous allez interdire aux enfants d'aller acheter des produits de beauté pour leurs parents. Je trouve ça un petit peu, si vous voulez, c'est une solution qui me paraît radicale et pas efficace. C'est-à-dire que on n'est pas. Alors déjà, d'une, on espère que c'est quand même un micro-phénomène.
L'interdire aux mineurs, nous dit Clément.
Attention, oui, alors... tout n'est pas nocif.
Oui, voilà, merci.
Alors Valérie Colin, je vous laisse terminer, puis je vous donne la parole, Marie Jourdan.
Oui, non mais déjà, en fait, quel produit on va interdire aux mineurs, comment on le fait, ça va pas être simple. Et puis, bon, il faut quand même se dire, là on a un micro-phénomène, évidemment qu'on est tous un peu inquiets de l'exposition de ces jeunes filles à des produits qui leur est pas destinés, ça c'est clair, donc on demande, c'est vrai qu'il faudrait que ce micro-phénomène s'arrête. Après, le problème, c'est que si on va regarder toutes les bêtises qui passent sur TikTok et qu'on veut faire des interdictions qui vont aller derrière, ça va vite, la vie va vite devenir très très compliquée.
Marie Jourdan, vous voulez intervenir sur la question d'interdire. On a deux auditeurs qui nous disent qu'il faut interdire.
Oui, mais parce que je trouve que ce côté aussi, je mets des choses sur ma peau, je prends soin de moi, ça fait partie de l'éducation, de la coquetterie. Elles ont envie de prendre soin d'elles et c'est pas forcément tout n'est pas acheté et c'est pas forcément négatif.
Alors, qu'est-ce qu'on met sur sa peau à moins de 13 ans, Marie Jourdan?
Justement, avoir des routines, c'est pas quelque chose de négatif. Comme je dis souvent, on apprend aux enfants à se brosser, à se laver les mains avant de manger. Et ben, si on a la peau sèche, on peut très bien mettre une petite crème hydratante. Apprendre aux enfants à se protéger du soleil, ça fait partie aussi des routines qu'on leur transmet. Donc c'est pourquoi pas, mais c'est vrai que
crème hydratante et
un gloss quand on a les lèvres complètement sèches, il y a pas de problème non plus. C'est juste à quel moment, effectivement, on commence à s'exposer, à se filmer et à parler des marques, et puis carrément cette dérive de produits qui sont absolument pas adaptés pour le coup. Mais c'est vraiment deux poids deux mesures, en effet.
Mais ça traduit aussi un changement chez les jeunes. On n'entendait pas parler il y a 10 ans, par exemple, chez les jeunes filles, du terme que vous venez d'employer, de routine beauté. Ça, c'est quand même quelque chose qui a émergé, Marie Jourdan.
Bah, la routine, on en entend parler quand on est enfant parce que on va faire pipi avant de partir de la maison, par
D'accord.
exemple. C'est une routine.
Tu parlais de routine beauté, en l'occurrence.
Exactement. Mais c'est un peu dans le même process. Simplement, je trouve qu'il faut pas oublier ce jeu de rôle qu'ont les enfants d'imiter leurs parents, qui au départ n'est pas forcément néfaste. On imite leur métier ou on se coiffe comme maman. Mais là, il y a le fait qu'elle s'expose à tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc moi, je dirais que c'est plus un problème de réseaux sociaux que... parce que ça a toujours existé, l'enfant qui veut mettre les produits de sa maman. Mais après, il y a un problème d'éducation et d'usage des réseaux sociaux.
Un dernier mot, Valérie Colin. Est-ce que les fabricants que vous représentez vont communiquer ou prévoient des actions sur les réseaux sociaux, par exemple, pour essayer de contrer ce phénomène ou de faire de l'information?
Déjà, moi je suis pas complètement d'accord avec vous, docteur. Je suis désolée, mais les marques n'ont pas intérêt à essayer de vendre des produits qui sont pas adaptés. Donc ça, voilà. Les marques font aujourd'hui beaucoup d'éducatifs sur leur site internet. Si on regarde, la FEBA fait la même chose. Donc oui, il y a de la prévention, il y a de l'éducation, il y a de l'information.
Merci à toutes les deux d'être venues parler de ce phénomène des Sephora Kids qui a suscité, vous l'avez constaté, beaucoup de réactions de la part de nos auditeurs. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Nous suivons cette semaine l'un de nos sportifs qui vise une médaille aux Jeux de Paris en skateboard. Il s'appelle Vincent Milou, il est originaire de la petite commune de Sobrigue dans les Landes. Mais à la campagne, il y a peu d'espace pour pratiquer le skate. Alors le frère de Vincent, qui est charpentier, lui a construit un skatepark privé au-dessus de son entreprise. On visite avec notre reporter Guillaume Batin.
Je skate depuis que j'ai 6 ou 7 ans, ça fait 20 ans que je skate. Et aujourd'hui, je me prépare pour les Jeux. Et là, on est chez moi.
On monte ?
On monte. Là, on est au deuxième étage, chez nous, mon frère. Son entreprise, c'est Atelier Landcraft. Il est charpentier, pour la petite histoire. Toujours été passionné par le bois. Il faisait du foot à haut niveau. Il a fait beaucoup de sport. Et du coup, quand il était petit, il adorait me voir faire du skate. Et il a commencé à me construire des modules, des micro-skateparks dans notre jardin. Puis 20 ans plus tard, on s'est associés et il m'a construit un skatepark avec son entreprise. Moi, j'ai le skatepark à l'étage et lui, il a son entreprise, toute l'équipe en bas, toutes les machines. Enfin, il construit des maisons, c'est un truc de ouf. Il construit des maisons sous nos pieds. Ce lieu de partage avec mes potes, c'est un peu mon chez-moi, quoi. Mon deuxième salon, c'est ouf de se dire que c'est chez moi. J'en ai toujours rêvé quand j'étais gamin, c'est un peu le rêve un peu de tout skateur qui vit pas dans une grande ville, d'avoir un endroit où tu peux skater tout le temps, dès que t'as envie, dès que t'as l'envie d'aller skater, tu dis putain, je vais aller au parc, je vais aller skater. C'est C'est un vrai luxe. J'ai énormément travaillé pour et je suis tellement heureux d'avoir ça maintenant.
Le sol est gris, les murs sont blancs, le plafond est en bois et il y a des modules fixes et d'autres modulables.
C'est ça, il y a tout qui bouge quasiment, il y a juste la grosse plateforme centrale là, sur laquelle on est qui est statique, puisqu'elle fait 10 mètres par enfin 100 mètres carrés, quoi, donc on ne va pas bouger quelque chose de 100 mètres carrés. Et les deux courbes de relance du fond sont statiques aussi, et tout le reste est modulable. Tous les rails bougent, les cœurs bougent, tous les modules au sol que tu vois, ils s'adaptent, ils se bougent, je peux les mettre où je veux dans le parc, les décaler, ils s'emboîtent les uns dans les autres pour créer un autre module différent. Et il y a déjà pas mal d'options, c'est vraiment cool. Je trouve encore des nouveaux trucs à skater. Après, ça fait 8 mois que je le skate, et je trouve encore de nouveaux trucs à skater tous les jours, enfin, c'est assez cool.
Participation à Tokyo, 4e place. Quel souvenir vous en gardez ?
Très bon souvenir. Un très bon souvenir. Ce jour-là, j'ai skaté au meilleur de mon niveau. Je suis passé à deux doigts d'être sur la 3e marche du podium.
Dans le monde des sports urbains, BMX, skate, les JO n'ont pas la même place que pour un athlète de sprint. Quelle place ça a pour vous, les JO de Paris aujourd'hui ?
C'est vrai que pour les gens qui écoutent, mon discours il peut paraître un peu bizarre, mais on n'a jamais grandi avec l'idée d'aller aux Jeux, parce que le skate, le surf, le BMX, tout ça, c'était pas aux Jeux. Mais au-delà de ça, c'est pas quelque chose qui nous est rêvé parce que ça faisait pas partie de notre culture et c'est pas quelque chose qui... moi ça me passionne, les jeux me passionnent en tant que spectateur, mais en tant que skater, dans mon âme, dans ce qui me fait rêver en tant que skater, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer à 100%. Mais ouais, du coup, mes jeux à Paris, ça me fait rêver et j'ai envie de les gagner.
Feuilleton avec le skateur Vincent Milou jusqu'à vendredi. La réalisation est signée Stéphane Ronxin.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h49 le lundi. Nous vous racontons l'histoire d'un lieu dans l'actualité. Aujourd'hui, direction le château de Versailles, la salle du congrès où députés et sénateurs vont siéger cet après-midi. La séance vise à inscrire la liberté garantie de l'IVG dans la Constitution. Thomas Negarov, quelle est l'histoire de cette salle ?
Eh bien, rien de mieux qu'une belle archive pour entrer dans le vif d'une époque où cette salle du congrès, située dans une aile du château de Versailles, l'aile du Midi, tient un rôle très important et régulier dans notre vie démocratique. On écoute les actualités françaises, celles qui passaient au cinéma en janvier 1947.
Une fois encore, Versailles s'est ranimé. La République, la 4e comme la 3e, donne volontiers à ses grands actes le décor solennel des anciennes monarchies. Le Parlement, Assemblée nationale et Conseil de la République réunis, nommait le premier président de la 4e République française. Fastes austères qui illuminaient en signe de joyeux avènement le premier soleil de l'année. Dès le premier tour, M. Vincent Auriol, président de l'Assemblée nationale, était élu à la majorité absolue.
De l'Assemblée nationale.
Pas mal.
Le Simon le Baron de 1947, Vincent Auriol, premier président de la 4e République, élu comme ceux de la 3e et ceux après lui de la 4e au suffrage indirect par les parlementaires réunis à Versailles. Ce sont 16 présidents qui vont être élus ici, dans cette salle. Et là a longtemps été la grande fonction de cette salle du congrès qui donnait régulièrement à la République des allures de monarchie.
Mais cette salle, en tout cas son histoire, est indissociable de la République.
Ah oui, ce n'est pas une salle passée de la monarchie à la République, même si elle est au château de Versailles. La Troisième République voit le jour en septembre 1870, mais la France poursuit la guerre contre la Prusse, le gouvernement se replie à Paris, puis à Bordeaux, et en mars 1871, la nouvelle Assemblée nationale, tout juste élue, vote son retour en région parisienne, mais choisit Versailles plutôt que Paris, en proie au climat révolutionnaire de la Commune. À l'époque, la Chambre unique siège dans l'Opéra du château de Versailles, mais quand en 1875, la République se dote d'une deuxième chambre, elle confie à l'architecte Edmond de Joly la construction d'une grande salle. Pour l'anecdote, sachez que c'est son père, Jules de Joly, qui donne au Palais Bourbon, là où siège aujourd'hui l'Assemblée nationale, son allure actuelle. Mais revenons à l'histoire, dans la salle du Congrès de Versailles, elle ne servira que quotidiennement, pas très longtemps, puisqu'en 1879 seulement, à l'époque, les parlementaires vont revenir à Paris, donc seulement 4 ans pour avoir cette fonction-là. Très tôt, la République a donc occupé le symbole même de la monarchie absolue, le château de Versailles, et pour renforcer la dimension syncrétique de cette salle, sachez que le vestibule qui y conduit est le vestibule Napoléon, et on y trouve 5 statues appartenant aux collections historiques du château de Versailles, le philosophe René Descartes, le poète François de Malherbe, le moraliste Michel de Montaigne, le penseur politique Montesquieu, et le peintre Nicolas Nicolas Poussin. Vous voyez, il y a un résumé de l'histoire de France qui se joue ici.
Donc, des élections de président de la République, on l'a entendu avec Vincent Auriol il y a une minute dans cette salle. Et aujourd'hui, l'endroit où on révise la Constitution.
Oui, cet après-midi, c'est la 17e fois que le Congrès s'y réunit dans ce but depuis 1958. À chaque fois d'ailleurs, c'est le oui qui l'a emporté. N'oublions toutefois pas que cette salle peut aussi être le lieu d'un discours du président de la République. C'est possible depuis 2008 et depuis cette date, c'est arrivé 4 fois, dont 2 fois pour Emmanuel Macron en 2017 et en 2018. Il voulait le faire à l'époque tous les ans, enfin une sorte de discours sur l'état de l'Union à la présidence américaine, mais un projet qui manifestement a été depuis abandonné.
C'est la France avec Thomas Negaroff de C'est la France, ça c'est une chanson. Votre invité du jour, Frédéric Pommier, est l'un des solistes les plus sollicités de la scène internationale, le violoniste Renaud Capuçon.
Il sera jeudi en concert à Toulouse, la semaine prochaine à Grenoble, puis il jouera en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en Espagne, en Hongrie, sans oublier la scène de l'Olympia ce dimanche où il interprétera de grandes musiques de films, musique que l'on retrouve dans son nouvel album Les choses de la vie, cinéma 2, et c'est d'une chanson de Barbara que Renaud Capuçon a souhaité me parler.
Mais j'écoute Barbara très souvent, plutôt seule, et plutôt quand je suis dans une forme d'introspection. J'ai l'impression que ça m'aide à voyager, en fait.
À voyager à l'intérieur de vous ?
Bien sûr.
Elle permet ça, Barbara ?
Elle permet de voyager à l'intérieur de soi de façon, je pense, poussée à son paroxysme. C'est une des chanteuses qui est peut-être le plus proche de la brisure, de la cassure entre ce qu'on a envie de dire, de ne pas dire. En tout cas, elle nous amène très loin. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'éminemment moderne dans cette façon de chanter qui est pourtant ancienne.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, où les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus
et
pas.
Et c'est donc, Frédéric, ma plus belle histoire d'amour qu'a choisi de nous faire écouter Renaud Capuçon.
Renaud Capuçon, avec lequel nous avons tout d'abord parlé de la voix de Barbara.
Quelque chose de très humain dans sa voix. Enfin, on entend au-delà d'une voix, en fait. On entend un souffle, on entend un timbre et on entend une souffrance, je trouve. Je dirais que c'est une plongée dans l'intimité. Cette façon de se mettre à nu, enfin, c'est la vraie authenticité pour moi. Et ce qui est touchant chez Barbara, c'est ce don de soi total. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour un artiste que de donner tout pour son public ? Et j'ai trouvé qu'il y a une élégance absolue à le dire avec des mots, à le dire en chanson. C'est ce que moi j'essaye de faire à chaque concert, de façon totalement subliminale, puisque je joue de la musique. Et évidemment, je la joue pour le public. Mais finalement, quelle que soit notre façon d'évoluer avec la scène, les moments où c'est plus dur, les moments où on est un peu moins en forme, les moments où on est au sommet de son art, ou je ne sais quoi, c'est toujours le public qui nous permet d'avancer.
Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou. Et je calme ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Elle dit merci à son public à travers cette chanson-là. Vous, est-ce qu'il vous arrive de dire merci avec des mots, enfin en disant vraiment merci d'être là ?
Oui, je l'ai fait. Il y a un moment qui me revient très fort, c'est le moment du Covid, où j'ai joué tous les jours avec Guillaume Bellhomme pendant 56 jours. On a enregistré des petites pastilles sur les réseaux sociaux. Guillaume enregistrait de son appartement des pièces au piano qu'il m'envoyait. Et moi, j'enregistrais avec un haut-parleur ce qu'il venait de faire pour qu'on soit ensemble. C'était vraiment acrobatique. Et le dernier jour, on s'est retrouvés finalement en vrai les deux. Et là, on a dit merci au public de nous avoir suivis et surtout de nous avoir soutenus parce qu'eux, ils nous ont sauvés. Parce que grâce au fait que tous les jours, on avait ce rendez-vous avec le public, c'était une façon pour nous de tenir aussi, sans concert, etc. je repense à une tournée en Chine au mois de mai où on a joué toujours avec Guillaume Bellum. On était les premiers artistes européens à revenir en Chine, notamment à Wuhan après la pandémie. Et il y avait un accueil du public, mais hallucinant. Et clairement, eux, ils nous disaient merci d'être là. Mais nous, on les a remerciés avec, je sais pas, 7 ou 8 bis. Et donc, par moment, oui, vous avez envie de dire merci plus que d'autres.
Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre. Ici même, vous en souvenez-vous. À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire. C'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous.
Est-ce que cette chanson-là, c'est une chanson qui vous arrive de jouer ?
Non, je l'ai jamais jouée. Je l'ai jamais joué, mais c'est pas dit que ça se fasse pas un jour.
Ça aurait du sens ?
Oui, ça aurait du sens pour cette chanson, parce que j'ai l'impression que les mots sont tellement intégrés à la musique, avec cette douceur et cette élégance, que ça pourrait se passer de mots, peut-être aussi.
Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Barbara, ma plus belle histoire d'amour. C'était donc, Frédéric, le choix de Renaud Capuçon.
Renaud Capuçon, qui sera ce dimanche en concert à l'Olympia, où il jouera les musiques de films issues de son nouvel album, Les Choses de la Vie, cinéma 2.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
La transition énergétique au programme.
Oui, on va interroger ce concept qui fait beaucoup parler en ce moment.
À tout de suite dans la Terre au Carré.